10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Ce 9 juin 2019, la droite française existe-t-elle encore? A-t-elle encore une quelconque utilité? Après le score calamiteux obtenu aux européennes par la liste menée par François-Xavier Bellamy, 8,48%, démissions et défections s'enchaînent. Laurent Wauquiez abandonne la présidence du parti, Valérie Pécresse quitte les Républicains. Et ça continue encore et encore. Ce matin, ce sont 72 maires de droite et du centre qui appellent à travailler avec Emmanuel Macron. Mais le plus dur, c'est peut-être pour ceux qui restent. Qui pour reprendre le flambeau? Pour proposer quoi surtout? Où retrouver de l'oxygène et des électeurs? Ces électeurs partis dans le camp du président ou dans celui du Rassemblement national? Est-ce encore possible de desserrer l'étau dans lequel les Républicains se retrouvent aujourd'hui? Coincés, voire broyés. Autant de questions que nous avons à poser à notre invité. Bonjour Nadine Morano.
Bonjour.
Merci de votre participation au grand rendez-vous. Vous avez été réélue députée européenne le 26 mai dernier. Vous avez auparavant été secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, puis ministre déléguée chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. C'était sous François Fillon, c'était sous Nicolas Sarkozy président. Vous assistez aux secousses que vit votre famille politique depuis maintenant 15 jours. Vous allez nous dire comment sortir de cette nasse dans laquelle semble se trouver votre famille aujourd'hui. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question, Nadine Morano.
Bonjour Nadine Morano. Pour rebondir sur ce que dit effectivement Hélène, cette fuite, ces maires, 72 maires élus de la droite et du centre, ce danger de Fontainebleau, de Deauville, Orléans, Sète, Valenciennes, de tout le territoire un peu finalement, qui publie une lettre ce matin pour travailler avec le président de la République, Emmanuel Macron. Certains étaient déjà en retrait de votre famille politique. Qu'est-ce que vous vous dites en lisant cet appel? C'est la fin de mon parti politique ou c'est anecdotique? Ils ne sont que 72.
Vous appelez ça une fuite, j'appellerais ça plutôt une désertion, mais qui est faible au regard des effectifs, du nombre des élus locaux dont la droite dispose. Je rappelle qu'aux dernières élections municipales, nous avons gagné 572 villes de plus de 10 000 habitants.
Vous n'y voyez Donc, vous me parlez un symbole.
Vous me parlez de personnalités qui signent, j'allais dire resignent, une tribune. Donc c'est vraiment du recyclé, pardon. Mais
certains
vous
étaient
nous
déjà
ressortez...
en retrait de votre famille politique.
Oui, vous nous ressortez les mêmes.
Marge,
vous nous
mais ils vont plus loin aujourd'hui et finalement ils appellent à travailler avec le président de la République.
Monsieur Laurent Hénard et d'autres.
Jean-Jacques Guillet dans les Hauts-de-Seine, monsieur Météro à la Baule, ce n'étaient pas des gens dont on attendait qu'ils passent de l'autre côté, Nadine Morano.
Oui, enfin qu'ils passent de l'autre côté. Moi, j'ai vu ces maires qui étaient déjà en retrait depuis un certain temps et qui, depuis 2017, après la chute de François Fillon, s'étaient quand même largement désengagés du parti. Donc,
oui,
tout
mais
ça,
se désengager et appeler à travailler avec, c'est un pas supplémentaire.
Mais ça ne veut rien dire, appeler à travailler avec. Vous croyez que nous, on ne travaille pas au service de la France, que quand les choses ou les réformes vont dans la bonne direction, on ne le fait pas? Nous l'avons fait sur la réforme de la SNCF, sauf que nous avons appelé aussi au danger de cette manque de plan de la SNCF sur les petites lignes et donc tout ce qui dessert nos territoires ruraux. Donc on va...
Mais là, c'est un signal politique de plus, Madame Morano.
C'est un signal politique d'un moment où nous sommes dans une situation un peu compliquée, c'est vrai. Mais c'est là aussi que se révèlent les personnalités. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre à déserter ma famille politique parce que nous traversons des difficultés. Là, j'entends, oh là là, c'est les élections européennes. On a l'impression qu'on a traversé le cataclysme. Oui, nous avons fait un très mauvais score. Il faut en tirer les conséquences et voir comment nous allons nous projeter dans l'avenir. Je vois le Front National en 2009 était tombé à 7%. Vous auriez dit, ah bah ça y est, le Front National a disparu. C'est ce qu'on entendait. Le Front National a disparu. Et là, nous sommes en 2019, le Front National est aujourd'hui à 23%. Ben, vous savez, dans la vie politique, il faut savoir garder son sang-froid, regarder la réalité de ce qui est comparable. Et moi, je suis désolée, j'appartiens à une famille politique qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron. J'ai beaucoup de divergences avec lui. D'abord, je considère qu'il a loupé vraiment... un moment historique après son élection, alors qu'il a été élu face à Marine Le Pen, ce qui prouve que une dizaine d'années après, la France se retrouve extrêmement fracturée, puisque Jacques Chirac en 2002 avait été élu face à Jean-Marie Le Pen, et je lui avais dit le 1er juillet 2017, on s'est vu à Strasbourg, je lui avais dit, vous savez, vous targuez d'être un jeune président. Mais si vous aviez voulu faire différemment, vous auriez dû, au regard de la situation de la France, divisée, fracturée, eh bien, de faire une proposition qui sortait de ce qui s'était passé auparavant. Et de dire, non mais ça, mais attendez, mais le débauchage, c'est une pratique reconnue, connue, utilisée,
on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça hors cohabitation.
En revanche, non mais... Rappelez-vous aussi que Édouard Philippe avait commencé chez Michel Rocard. Donc, il faisait partie de cette espèce de centre-gauche de notre famille politique. Il faut arrêter. Mais vous m'avez pas laissé terminer ma phrase. Si. Ce qui aurait eu un sens, c'est qu'à ce moment-là, une fois les élections législatives passées, où nous avons obtenu plus de 100 sièges à l'Assemblée nationale, donc nous n'étions pas éliminés de la vie politique française, il aurait pu faire une déclaration devant les Français et dire, voilà, la situation est grave, je vous propose de consulter l'opposition, de proposer un contrat de gouvernement sur la base de 4 réformes majeures sur l'économie, l'éducation, l'immigration, la sécurité, et de proposer un contrat de gouvernement, et donc un contrat de coalition. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait du débauchage. Et aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est de nous éliminer, c'est de nous effacer, c'est de nous détruire. Ben non, on sera là parce que nous ne partageons pas tout de ce que propose Emmanuel Macron. Quand on est de droite, véritablement, on agit sur la baisse de la dépense publique. Quand on est de droite, on baisse les impôts, on maîtrise l'immigration. Et moi, je n'ai pas sa vision non plus de la construction européenne, puisque c'est un diviseur sur la scène européenne.
On va en reparler, Nadine Morano. Vous dites, je ne déserte pas. Est-ce que vous serez candidate pour l'élection de la future présidence de votre parti, puisque Laurent Wauquiez a jeté le gant ?
Et Laurent Wauquiez, d'abord, je voudrais revenir un peu sur ce sujet, si vous me le permettez. Parce qu'on a fait un parallèle avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a perdu les élections européennes, il a démissionné. Bon, très bien. Sauf que Nicolas Sarkozy, à l'époque, était tête de liste. Laurent Wauquiez n'était pas tête de liste.
Donc vous regrettez
Laurent et Nicolas Sarkozy était tête de liste. Il avait pris en cours cette tête de liste puisque Philippe Séguin lui avait jeté le gant, mais il est resté secrétaire général de notre famille politique. Là, ça a été l'alali sur Laurent Wauquiez qui a quand même remonté cette famille politique, qui a assaini les finances de notre parti, qui a remis en ordre nos fédérations.
Et qui n'a pas voulu être tête de liste.
Et qui n'a pas voulu être tête de liste parce qu'il a respecté le choix qu'il avait fait vis-à-vis des électeurs. Il est président de région, il n'y a plus le cumul des fonctions, comme vous le savez, dans notre pays. Et donc, il a voulu respecter l'engagement qu'il avait pris devant les électeurs.
Serez-vous candidate, Nadine Morano ?
D'abord, vous avez vu que... Il y a plusieurs personnalités qui peuvent se dégager. Donc nous verrons, nous aurons un bureau politique cette semaine. C'est vrai que dès mercredi, j'ai eu la même idée que beaucoup de mes collègues en réfléchissant à la situation. Je me disais, mais quelle personnalité, si c'est moi, de toute façon, il y aura toujours certains qui vont encore pousser des hauts cris. Si c'est un autre, c'est autre chose. Si c'est un autre. Et je me suis dit, qui pourrait faire cette synthèse, incarnant une solidité, incarnant un rassemblement et qui serait quasi inattaquable au final. Et donc, j'ai pensé à Christian Jacob, à qui j'ai envoyé un message, et je me dis, écoute, t'es solide, t'es un terrien, t'es reconnu par tous, t'es pas candidat à l'élection présidentielle, et si on pouvait rénover tous ensemble notre famille politique, avec ceux qui ont de l'expérience, avec les plus jeunes, comme Aurélien Pradier et d'autres, je pense que nous allons remettre sur les rails notre famille politique.
Nicolas Barré.
Vous avez évoqué Nicolas Sarkozy. Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy est exclu ? Est-ce qu'à vos yeux, il peut incarner, au fond, un sauveur de la droite dans la période actuelle ?
Il incarne la personnalité de droite qui est la plus appréciée parmi les Français. Il incarne celui qui a gagné les dernières échéances électorales et avec une méthode. Vous savez, la méthode Sarkozy, c'était le bouillonnement des idées. C'était un parti qui travaillait beaucoup, qui était ouvert à tout. Moi, j'ai fait partie de la commission projet où on se réunissait avec nos différentes sensibilités politiques tous les jeudis de 9h à midi. Et je peux vous dire que c'est comme ça qu'on a bâti le programme de 2007, le programme de la victoire.
Mais il est silencieux aujourd'hui.
Et Il est peut-être silencieux dans le grand public, mais ne vous inquiétez pas, il parle beaucoup quand même. Et donc, je vous parle.
Vous avez eu l'occasion
bien
de lui demander
nous
ce qu'il
parle,
pense
mais
de,
bien
de
sûr,
ce qui
il
se
nous
passe
parle, il reçoit, il est. C'est quelqu'un qui.
Et alors,
d'abord,
qu'est-ce qu'il pense de ce...
il est très attaché au destin de la France. Hein. Il est très attaché à sa famille politique et il est sans doute atterré de ce qu'il voit. Et je pense qu'il donne des conseils aux uns et aux autres. D'abord, pour le destin de la France, et ensuite, parce que c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés qu'il a traversées, moi j'avais soutenu Chirac en 95, lui avait soutenu Édouard Balladur. Mais malgré ces difficultés qu'il a eues, il n'a jamais quitté sa famille politique. Ça devrait servir de leçon aux autres. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'estime minoritaire qu'on doit partir.
Nadine Morano, on vous retrouve dans un instant pour la suite du Grand Rendez-vous. On va continuer à parler des hommes, des femmes qui pourraient sauver les Républicains, mais aussi évidemment de la ligne politique que vous devez trouver. À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous Europe 1
avec Les Échos et CNews. 10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1
avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nadine Morano, députée européenne Les Républicains, est l'invitée du Grand Rendez-vous. Nadine Morano, Valérie Pécresse a annoncé cette semaine qu'elle quittait Les Républicains avec des mots très durs sur l'état du parti, de votre parti. Je vous propose de l'écouter et vous réagirez.
J'ai décidé de quitter Les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Vous savez, ça fait 3 ans que je plaide pour un changement de ligne et un changement de stratégie. J'ai plaidé pour l'élargissement de la droite. On a eu le rétrécissement. J'ai plaidé pour la clarification vis-à-vis de tous ceux qui, aux Républicains, susurrent qu'on ferait bien d'aller faire une alliance avec l'extrême droite. Donc, je crois que nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction. Et il faut se remettre au travail.
Droite menacée d'extinction, rétrécissement de la droite. Vous avez entendu ce diagnostic ?
Je croyais que vous alliez me passer un extrait de Valérie Pécresse au dernier meeting des élections européennes à Paris, où au micro, et cette vidéo tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, elle rappelait sa fidélité aux Républicains et elle appelle après, une fois le résultat, à la démission de Laurent Wauquiez. Elle fait une réunion avec Gérard Larcher, puis après, elle s'en va. Donc, moi, la question de la fidélité de Mme Pécresse me pose sujet parce que pendant la primaire, elle avait soutenu Alain Juppé. D'abord François Fillon. Et comme elle voyait que c'était Alain Juppé qui était plus haut dans les sondages, du coup, elle est partie chez Juppé. Puis après, elle est retournée chez Fillon en s'excusant.
Emmanuel Macron, contrairement au maire qu'on a cité en début d'émission, elle quitte sa famille politique, estimant qu'elle ne peut plus s'exprimer.
Mais c'est faux, mais vous savez que moi je vis dans cette même famille politique qu'elle, je participe au bureau politique où elle fait une déclaration et elle s'en va. Elle s'en va notamment quand je vais prendre la parole parce qu'elle sait très bien que j'ai voté contre la création de son annexe qui s'appelle Libre, alors elle n'arrête pas de dire en femme libre, comme si nous on était tous des aliénés. Mais pardon, moi je suis une femme libre, totalement libre, mais je recherche l'unité de ma famille politique, j'aime son histoire, tout ce qu'on y a fait, et quand on traverse des difficultés, on reste malgré tout unis. Valérie Pécresse ne supporte pas le débat et surtout pas d'être minoritaire.
Mais son diagnostic, Nadine Morano, au-delà de la personne de Valérie Pécresse.
Elle a créé Libre parce qu'elle veut une cour. Elle ne veut pas un débat.
Mais vous avez vous-même votre association, le Rassemblement pour le Peuple de France. Oui. Vous aussi, vous animez association.
J'ai un mouvement politique qui n'est en rien un mouvement de division à ma famille politique. Et ceux qui adhèrent savent que Nadine Morano appartient et est membre des Républicains et que si nous avons des difficultés, on les traversera tous ensemble. Vous ne m'avez jamais vu prendre la parole au titre de ceux qui adhèrent à ce courant d'idées, prendre une position contre ma famille politique et pour la destruction de ma famille politique. Je dis encore une fois, Valérie Pécresse ne veut pas le débat. Elle pourrait se présenter à la présidence des Républicains. Pourquoi ne le fait-elle pas ? Pourquoi elle ne l'a pas fait quand ça a été le moment de le faire et que Laurent Wauquiez y est allé ? Parce qu'elle n'a pas eu le courage de le faire et qu'elle est dans une posture de destruction. Moi, je pense que les parcours solitaires n'amènent à rien et qu'aujourd'hui, elle se met largement en danger pour la présidence de sa région.
Nadine Morano, si on prend un peu de recul par rapport aux événements de ces derniers jours, beaucoup à droite pensent et disent, par exemple Jean-François Copé, et pas seulement donc Valérie Pécresse, pensent que le péché originel de Laurent Wauquiez fut de ne pas choisir au moment du deuxième tour de la présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez ce jugement de ceux qui pensent que c'était contraire aux valeurs du gaullisme de ne pas choisir ?
Non, mais quand on veut trouver des défauts à quelqu'un, on trouve toujours un prétexte pour dire il n'est pas ci, il n'est pas ça.
Là, c'est un moment majeur quand même.
C'est parce que il n'a pas appelé à voter pour quelqu'un en estimant que chacun était libre de sa décision. Hein. Moi je respecte les choix de chacun. Certains ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, d'autres se sont abstenus, elles ne le diront peut-être pas. Moi j'ai voté pour Emmanuel Macron. Hein, parce que je ne vote pas pour le Rassemblement National, et jamais. Mais quand je vois la politique qu'il fait, je me dis que j'étais dans un choix tellement rétréci qu'il faut sortir de ça. Il faut en sortir, parce que la politique d'Emmanuel Macron, comme au niveau européen, est une catastrophe. Jamais on a eu un président qui a ce point divisé sur la scène européenne. J'espère qu'on y reviendra. Et sur la politique nationale qu'il mène, qui est une politique brouillonne, qui est une politique de mauvaise gestion. Vous vous rendez compte qu'on est les bonnets d'âne en Europe sur la dépense publique, sur le déficit public, sur l'impôt de production, et on augmente, il a augmenté la CSG sur les retraités, il augmente les taxes sur les carburants, ensuite il revient sur les 80 km/h et il revient
Nadine
sur
Morano,
la hausse CSG.
Qu'est-ce qu'est de droite aujourd'hui pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que vous avez encore à dire aux électeurs et aux Français ?
Pour moi, être de droite, c'est vraiment plusieurs grandes thématiques. D'abord, la première thématique économique, c'est que notre objectif, c'est de baisser les impôts et de retrouver la compétitivité de nos industries et de nos entreprises. Pour pouvoir le faire.
Mais baisser les impôts, Emmanuel Macron, il y a un plan de baisse d'impôts sur le revenu.
C'est comme la gestion de votre budget familial. Et ceux qui nous écoutent, je vais vous dire, ils n'ont pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'il faut arrêter de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Mais pour pouvoir baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Emmanuel Macron est dans la même trajectoire d'augmentation de la dépense publique que ne l'avait fait François Hollande. Nous avons proposé un plan de baisse de la dépense publique de 20 milliards d'euros par an.
Avec la suppression de 500 000 fonctionnaires, c'était le plan présidentiel, c'était dans le programme présidentiel de François Fillon.
On n'est pas dans le plan présidentiel de François Fillon.
Ah, donc on a changé.
On est dans le plan, oui, évidemment, on est dans un projet que nous avons présenté de baisse de la dépense publique de plus de 20 milliards d'euros. Et on a regardé chacune des lignes de dépenses sur lesquelles on pouvait faire des économies, sur la gestion de l'État, sur l'immobilier, sur le parc immobilier.
Mais pour reprendre la question, est-ce que la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, c'est toujours pertinent
à
vos yeux ?
Non, mais il faut...
Non, mais est-ce que c'est toujours pertinent ?
Non, mais il faut baisser le nombre de fonctionnaires. Mais moi, vous savez, Nicolas Sarkozy nous a appris à marcher sur nos deux jambes. Si on baisse le nombre de fonctionnaires, et d'ailleurs, j'observe que la décentralisation a aussi des effets extrêmement pervers, parce qu'on décentralise des compétences de l'État, mais on n'enlève pas de fonctionnaires d'État et on augmente la fonction publique territoriale. Nous, ce que nous voulons, c'est à la fois baisser le nombre de fonctionnaires, mais que dans la fonction publique, on soit mieux payé, et que dans la fonction publique, il y ait une fonction publique qui soit régalienne et avec des contrats qui puissent être des contrats de mission et pas le statut de fonctionnaire public tel qu'on l'a aujourd'hui.
Donc pour reprendre la question d'Hélène Jouan, Hélène, être de droite, c'est baisser la dépense publique.
C'est baisser la dépense publique.
Et c'est quoi d'autre ?
Laissez-moi finir. C'est de baisser les impôts. Mais aussi pour arriver à cela, parce que là, on regarde notre mauvaise politique industrielle. Quand on regarde les impôts de production que nous avons en France, qui sont 3 fois plus élevés que dans l'ensemble de l'Union européenne, 6 fois plus élevés qu'en Allemagne, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes de compétitivité dans notre pays. Donc nous, on veut s'attaquer à tout cela. Quand on est de droite, on sanctionne les délinquants et on maîtrise aussi l'immigration. Aujourd'hui, l'immigration explose dans notre pays. Les mineurs, ce qu'on appelle les mineurs étrangers non accompagnés, ça coûte 2 milliards d'euros
Nadine
chaque
Morano,
année au département. Eh bien ça, nous n'en voulons plus.
Nadine Morano, vous parliez de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Je vais vous parler de son ancienne conseillère, inspiratrice du programme de Nicolas Sarkozy en 2007, que vous avez loué. Donc, Emmanuel Mignon dit dans Le Point, Emmanuel Macron est le meilleur président de droite que nous ayons eu depuis longtemps. En fait, c'est peut-être ça votre problème. Il fait une politique de droite, même si elle n'est pas forcément complète ou ne va pas suffisamment.
Moi, j'apprécie beaucoup Emmanuel Mignon et je partage quasi l'essentiel de ce qu'elle a dit dans le point, notamment sur la situation de la droite, sur Laurent Wauquiez, sur François-Xavier Bellamy.
Sur les sujets de,
mais
de société.
Sur cette phrase-là, pas du tout. Parce que être de droite, vous voyez par exemple, je vais prendre un sujet international au-delà de la politique nationale. Les sanctions qui pèsent sur la Russie. J'en ai parlé trois fois à Emmanuel Macron. Je trouve que c'est une erreur majeure que de mettre des sanctions financières contre la Russie qui a porté un embargo russe et qui pénalise de beaucoup nos producteurs et nos agriculteurs. Il n'a rien fait sur cette question. Mais quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, je peux vous dire que quand il y a eu la crise avec la Géorgie, il a pris son avion, il est allé voir Medvedev et il a réglé ce problème. La France était en initiative et en leadership. Et moi, je considère que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est complètement décrédibilisé sur la scène européenne parce que se réjouir du score de la droite, ne rien changer en ce qui concerne M. Macron, avec le Premier ministre qui va nous refaire un discours de politique générale, comme
alors,
si rien ne s'était
reparler,
passé, alors que l'extrême droite est arrivée devant lui, eh bien franchement, il n'a peur de rien.
Question
de
Nicolas Barré. De la droite, quand les députés et les sénateurs LR se joignent au vote des Insoumis pour s'opposer à la privatisation d'Aéroports de Paris, à une privatisation. Vous comprenez que vos électeurs soient un peu déboussolés quand même ?
Oui, enfin, qu'il y ait un accord avec la France insoumise, ça, quelque part, ça m'interpelle, mais on peut discuter de l'opportunité d'une privatisation.
De l'opportunité peut-être, mais du principe de la privatisation.
Sur le principe aussi, on peut en discuter.
C'était pas tellement dans l'ADN de la droite.
Vos électeurs ont sans doute été un petit peu... Sur le principe aussi, même si on sait très bien que l'État est très mauvais gestionnaire. On voit ce qui se passe avec Renault, on a vu ce qui se passe avec Air France, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec Alstom. Mais alors, à l'époque, M. Macron était... Alstom et General Electric, M. Macron était ministre de l'économie. On oublie toujours de rappeler quand même les origine politique de M. Macron. Mais M. Macron, il est entré en politique, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, conseiller de M. Hollande, il en est devenu le ministre, et aujourd'hui, il est dans cette continuité politique de François Hollande qui nous amène à des hausses de taxes sur les retraités qui ont perdu en pouvoir d'achat.
Mais sur ce sujet des privatisations, vous comprenez que votre électorat puisse être un peu déboussolé quand on voit les leaders de la droite dire non à une privatisation.
Mais notre électorat, je vais vous dire, elle est surtout déboussolée par une chose. C'est de voir le spectacle qu'on leur inflige depuis 2017. D'abord, le spectacle de François Fillon, qui n'a pas voulu laisser sa place à François Baroin, puisque moi, j'estimais que c'était François Baroin qui devait reprendre cette campagne. Parce que d'ailleurs, je dirais même que c'est tellement absurde, cette primaire, que dans cette organisation de primaire, il n'était même pas prévu un plan B. S'il arrivait un accident ou un problème politique à notre candidat, il n'y avait même pas de plan B. Donc, on s'est retrouvé sans solution. Il a refusé
un plan B, où il n'y aura pas de primaire.
Ah, moi, je ne veux pas de primaire, c'est clair. Je ne veux pas de primaire ouverte. S'il y a une primaire, elle sera à l'intérieur du parti.
Christian Jacob, qui a priori ne sera pas candidat à la présidentielle, ou ça pourrait être une.
Mais il peut organiser les conditions de la désignation de notre candidat en interne. Mais après, le spectacle que nous donnons avec Valérie Pécresse et d'autres, je pars, je ne suis pas content, c'est verrouillé, déverrouillé.
Pendant les élections européennes, ça s'est pas mal passé. Tout le monde était réuni derrière François-Xavier Bellamy.
Et voilà, et ben c'est ce qu'a obtenu Laurent Wauquiez. C'est qu'avec
ça a fini à 8-5.
Parce qu'il a commencé à se dire, bon, ce qui est essentiel quand même et qui fait désordre vis-à-vis de notre électorat, c'est cette désunion permanente. Et donc, je vais constituer un trio de têtes qui représente la sensibilité pécressiste, la sensibilité juppéiste, la sensibilité un peu de droite, un peu plus conservatrice avec François-Xavier Bellamy. Et ensuite, on constitue cette liste. Avec ce trio de têtes qui, à mon avis, et ça, c'était une erreur stratégique de campagne, est resté jusqu'au bout de la campagne alors qu'on aurait dû valoriser tout l'ensemble.
Vous, des par exemple. De la...
Mais pas que moi. On avait des élus partout dans nos territoires. Brice Hortefeux, je pense à Patrick Boré, aussi maire de la Ciotat.
Geoffroy Didier dirigeait la campagne.
Mais... Non, mais je pense à beaucoup d'élus qui sont dans nos territoires et qui auraient mérité d'être valorisés pour mieux structurer cette campagne. Ceci étant, sa volonté de rassemblement, pendant ces deux mois, vous n'avez entendu personne. Ils étaient tous présents dans les meetings à dire que notre candidat était fabuleux et que nous allons gagner ces élections. Donc, et dès le lendemain, paf, ça se déchire. Mais c'est ça qui fait que notre électorat fuit. C'est parce que nous ne sommes plus désirables. Qu'est-ce que vous voulez aller voter pour un parti qui se présente comme une organisation de bataille de chiffonniers, ça peut pas marcher.
Nadine Morano, députée...
C'est plus ça que le fond, hein.
Nadine Morano, on va reparler du fond dans un instant avec le grand rendez-vous, sur le grand rendez-vous avec Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. On se retrouve à tout de suite.
Le grand rendez-vous Europe 1
avec Les Échos et CNews. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1
avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nadine Morano, députée européenne Les Républicains et l'invitée du Grand Rendez-vous, une question de Nicolas Barré.
Oui, Nadine Morano, vous évoquiez avant la pause cet électorat de droite un peu déboussolé en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la bonne stratégie pour la droite, ce ne serait pas au fond de se positionner sur certains sujets de fond, comme le fait Xavier Bertrand qui monte au créneau sur la fusion, le projet de fusion Renault-Fiat, qui propose une prime défiscalisée, qui propose qui bataille sur Ascoval, qui fait des propositions sur l'apprentissage, etc., et qui se positionne donc sur ces sujets de fond. Est-ce que c'est pas lui, finalement, qui a raison ?
Mais nous aussi, on se positionne sur tous ces sujets de fond. Vous savez, un parti politique, parce que je voudrais rappeler quand même que le président de la République a aussi un parti politique. On nous dit que tout ça est obsolète. Pas du tout. C'est un organe de réflexion où des citoyens ont envie de venir participer à un débat. Ce dont nous parlons est... C'est à la fois, évidemment, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est à la fois, quand je vous disais qu'il fallait vraiment baisser les impôts de production, qui sont une spécificité française. Et quand on regarde après nos résultats, il ne faut pas s'étonner. Un parti politique, il a vocation à avoir une réponse forte sur le régalien, une réponse forte sur l'économie, une réponse forte sur tout ce qui est éducation et formation professionnelle. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Et en matière de sécurité, nous sommes extrêmement exigeants. Là, quand vous nous parlez des primes, moi, je pense que la priorité, ce n'est pas des primes. La priorité, c'est de baisser la fiscalité pour redonner de l'oxygène à nos entreprises. C'est de faire attention aussi quand nos fleurons industriels sont mis en danger. Moi, je me rappelle d'une époque, vous allez dire, on y revient encore, mais enfin...
Qui a porté sur Renault, on a entendu Xavier Bertrand, on n'a pas entendu votre parti prendre position.
Oui, mais quand vous regardez la méthode de Bruno Le Maire, à chaque fois qu'il touche quelque chose en matière industrielle, ça ne va pas dans le bon sens. Quand il est intervenu, du coup, Fiat ont trouvé que l'accord qui est en train de se préparer, il y avait trop d'interventionnisme d'un point de vue de l'État français. Et vu la situation dans laquelle nous sommes d'un point de vue économique, c'est un peu compliqué de voir la manière dont il intervient. Donc il faut faire... Très attention aussi, on l'a vu aussi avec Air France et KLM, hein, et on voit que quand il y a eu des difficultés avec Alstom, eh bien, quand nous étions au pouvoir, l'État est entré au capital d'Alstom pour une période déterminée. On est ressorti en faisant des bénéfices d'ailleurs et a sauvé Alstom. Aujourd'hui, on laisse filer nos industries stratégiques et je pense qu'on doit vraiment avoir une réponse sur ces questions. Par ailleurs, vous savez, être de droite aussi, c'est avoir une vraie politique familiale. Moi, j'ai été en charge de la famille lorsque j'étais au gouvernement. Notre politique familiale, malgré la crise économique, jamais nous n'y avons touché. Nous avons toujours privilégié les familles. Et quand je vois que François Hollande a baissé le quotient familial par deux fois, quand je vois aujourd'hui le taux de fécondité qui baisse en France, alors qu'en 2010, il était à plus de deux par femme...
Ça, c'est la faute de François Hollande et d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Ah ben, quand vous attaquez comme ça à la politique familiale, on voit que on n'incite plus à se dire bon, bah, vous savez, élever des enfants, éduquer des enfants, ça a un coût. Hein, et aider les familles à avoir des enfants, c'est important. Moi, quand je parlais avec Ursula von der Leyen, qui était ministre de la famille à l'époque, qui maintenant est à la Défense en Allemagne, et qui était venue s'inspirer de notre politique familiale, elle était atterrée de voir à quel point on s'attaquait à la politique familiale française, qui marchait si bien. D'où d'ailleurs la problématique aussi des retraites. Parce que quand on parle des retraites, il faut regarder quel est le nombre des actifs et quel est le nombre de ceux qui sont à la retraite. Quand vous voyez que dans les années 60, on avait 4 actifs pour un retraité, que maintenant, on a, d'ici, dans les projections, d'ici à 2020, on aura 1,7 actifs pour un retraité. Comment on fait pour payer les retraites? C'est un vrai sujet. Et donc, ces sujets se tiennent tous. On ne peut pas parler d'un côté d'économie sans parler de baisse de la dépense publique. On ne peut pas parler de baisse des impôts si on ne baisse pas la dépense publique. On ne peut pas parler pouvoir d'achat sans politique familiale. On ne peut pas parler de réforme des retraites sans voir comment on la finance et quels sont les actifs qui pourront la financer. Donc, la droite, c'est tout ce champ de réflexion.
Sur
c'est pas
chômage,
un tout petit champ de réflexion.
Avec ce que fait le gouvernement, avec ce que propose le gouvernement sur l'assurance chômage, qui propose de durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage, c'est ce que demande la droite depuis longtemps,
oui, mais,
pour inciter davantage le retour au travail.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, la formation professionnelle et remettre sur les rails quelqu'un qui n'a plus de travail, mais aussi les jeunes qui vont sortir et qui sont en réunion d'orientation, dans le chemin de l'orientation. Vous êtes sans doute parent, j'ai été mère de famille. Quand je voyais comment ça se passait, si tu veux faire tel métier, tu dois choisir telle école. Sans jamais avoir, et moi je voudrais qu'on diffuse cela partout, Pôle emploi fait une étude chaque année qui s'appelle les besoins en main-d'œuvre, et que chacun puisse se dire, tiens, il y a des projections d'emplois possibles dans ma région, au niveau de l'État ou en international.
Et aujourd'hui, une réforme de l'apprentissage qui a été validée par le gouvernement et qui essaie de tendre à rapprocher justement la formation des jeunes et les besoins en emploi.
Vous savez, quand j'étais ministre en charge de l'apprentissage, Nicolas Sarkozy m'avait confié cette mission parce que je vis en Lorraine, dans une région à trois frontières et qui est surtout frontalière avec l'Allemagne, qui pratique la formation par alternance depuis des décennies et qui a un taux de chômage très bas chez les jeunes, alors que nous, on atteint 25%. Mais quand François Hollande est arrivé au pouvoir, j'ai dévissé moi-même la plaque sur le mur de mon ministère et je l'ai posée sur le bureau. Ils ont supprimé le ministère de l'apprentissage, alors que nous, on avait relancé tout le secteur de l'apprentissage.
La réforme qui est mise en œuvre, elle est plutôt plébiscitée par les entreprises,
Tant mieux, mais quel temps perdu
Du quinquennat Hollande. Mais,
d'accord,
c'est fini depuis
deux ans. Vous ne faites pas le procès du quinquennat Hollande, sauf que j'observe que celui qui a beaucoup participé à ce gouvernement, ce fut Emmanuel Macron. Et qu'on est à deux ans de quinquennat, l'apprentissage, certes, est important, mais encore une fois, il y a un pan important aussi, c'est l'orientation des jeunes en fonction des besoins en main-d'œuvre, mais c'est aussi de remettre aussi, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi qui ne sont pas pourvues en France. On ne trouve pas, gens qui acceptent des emplois, parce que justement, comme vous êtes au chômage,
vous pouvez pointer depuis... Justement, il y a un discours de politique générale. Le Premier ministre souhaite intensifier les réformes, accélérer, aller plus vite.
C'est comme les 80 km/h, il va revenir sur ce qu'il a fait.
Ce vote de confiance à l'Assemblée, clairement.
Mais pourquoi vous savez ce qu'il y a dans son discours ? Moi, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans son discours.
Alors, on a eu clairement la ligne politique présentée par le président de la République lors de sa conférence de presse le 25 avril dernier.
Ah bon ?
Il
n'y
aura pas de changement de cap.
Je ne sais pas. Il n'y a pas de changement de cap. Mais vous savez, quand vous avez aux élections le Front National, le Rassemblement National, qui arrive en tête devant le parti présidentiel. Nous, je vous rappelle qu'en 2009, le parti présidentiel faisait 30% des voix et le Front National était à 7%. Quand il passe devant le parti de gouvernement, le parti en place, l'exécutif, et que ça n'interpelle pas, parce que pour moi, je vais vous dire, le Rassemblement National reste ce que j'appelle le parti de la colère et le parti du ras-le-bol. J'ai vu beaucoup d'électeurs qui me disaient, nous, on va voter Front National, non pas parce qu'on veut voir Marine Le Pen arriver au pouvoir, mais pour donner une bonne leçon à Emmanuel Macron. Et voilà qu'on nous dit, le même Premier ministre et le même gouvernement, celui qui a augmenté la CSG sur les retraités, celui qui a mis en place les 80 km/h et qui, sur les deux réformes, fait marche arrière en disant je vais vous rembourser une partie de la CSG, je vais remettre en cause les 80 km/h.
De confiance.
Mais moi, on verra ce que va dire le Premier ministre. Franchement, sans changement de cap, sans changement de ligne, je ne vois pas comment on pourrait voter la confiance à un président qui ne tire même pas les leçons d'un scrutin où il est arrivé deuxième.
Nadine Morano, vous mettez en cause la responsabilité du président et de son parti, la responsabilité de la droite. Il y a quelques instants, sur Europe 1, Dominique Grenier, qui dirige la Fondation pour l'innovation politique, disait « la crise de la droite rend... plus possible, plus probable encore, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. » Ça, c'est aussi votre responsabilité.
Mais c'est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité d'Emmanuel Macron qui, au soir de ses élections européennes, a dû sabler le champagne. Lui, ce n'est pas une stratégie pour la France. Qu'il a, c'est une stratégie de pouvoir être réélu à nouveau. Et donc, il s'est sans doute dit que le stratagème qu'il avait mis en place, et je ne critique pas, il ne faut jamais critiquer ses adversaires. Il faut constater qu'il a mis en place une stratégie qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, son objectif, c'est d'effacer la droite républicaine et d'avoir Marine Le Pen en face de lui parce qu'il sait que de toute manière, il y aura
un plafond de verre, et
je pense que tout l'enjeu de cette reconstruction, de cette refondation ensemble, la droite et le centre, d'abord c'est de parler à tous les électeurs. Moi je ne rejette pas les électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen, je ne rejette pas les électeurs qui sont allés voter pour Emmanuel Macron, je veux parler à tous les Français, tous sans exception. Et je pense que quand on fait de la politique, ce qui doit nous animer, c'est comment servir au mieux la France et les Français. Quand on aura trouvé cette voie, et est-ce que chacun aura mis son petit égo personnel pour favoriser uniquement le destin de la France dans sa poche, hein, je pense qu'on ira mieux. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs, c'est de se dire comment est-ce qu'on a cette troisième voie. Et comment est-ce qu'on retrouve l'autoroute plutôt que d'être parti vers un chemin de traverse qui nous amène au ravin ? C'est ça l'enjeu. Et sur cet enjeu, pour réussir, il faut parler à tous les Français, mais sur tous les sujets, c'est-à-dire économie, éducation, formation, immigration, sécurité, identité de la France, lutte contre l'islam radical. Tout cela, on doit pouvoir parler, avoir un grand projet et incarner cela. Et c'est pour ça que je regrette le choix de Valérie Pécresse, avec qui j'ai été dans le même gouvernement, et j'avais dit à Valérie Pécresse que c'était dommage qu'elle ne prenne pas la présidence de notre Conseil national. Sa place, elle est à l'intérieur. Comme Xavier Bertrand, avec qui j'ai gouverné, j'ai travaillé avec Xavier, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Xavier, sa place est avec nous. Il ne va pas faire chemin tout seul. Qu'est-ce qui fait chemin tout seul ? C'est tous ensemble qu'on doit retrouver cette vision. Parce que quand je regarde, en fait, nos prises de position politique, que ce soit sur l'immigration ou le reste, eh bien, on a plus de points de convergence que ce qui nous divise, hein, soyons clairs. Donc, les chemins de traverse, franchement, sont désolants. Et moi, je les appelle à revenir à la raison et à retrouver le chemin de la même maison.
Nadine Morano, députée européenne, Les Républicains et l'invitée du Grand Rendez-vous. On parle Europe dans un instant. À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. 10h-11h, le Grand Rendez-vous européen. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nadine Morano, députée européenne Les Républicains et l'invitée du Grand Rendez-vous, une question de Damien Fleurot.
Oui, Nadine Morano, les députés européens dont vous faites partie étaient invités en fin de semaine par le Premier ministre, par la secrétaire d'État aux Affaires européennes pour parler des grands sujets qui vont vous animer dans les prochaines semaines et les prochaines années. Les eurodéputés de la France Insoumise, des écologistes, du Parti Socialiste ont boycotté cette réunion. Pas les députés de votre famille politique, mais vous n'y étiez pas. C'était un piège, ce rendez-vous ?
Non, on en a discuté en réunion de délégation. J'ai estimé que, par respect républicain, que un ou deux parlementaires de notre délégation, quelques-uns y aillent, c'était bien. Moi, je n'avais pas envie d'aller à cette réunion.
Et l'idée d'une équipe de France...
Mais ça n'existe pas. Mais on n'est pas dans les mêmes groupes politiques, comme vous le savez, et on ne partage pas la même vision politique.
Mais il peut y avoir des coalitions de projets, vous le savez très bien,
mais de toute façon, au Parlement européen. Mais il peut y avoir des... De toute façon, vous savez que nous appartenons au titre du groupe PPE, le Parti Populaire Européen, au groupe le plus important du Parlement, qui est déjà structuré et qui est déjà en ordre de fonctionnement, avec 24%. Le groupe du président de la République se retrouve seulement avec 14% de parlementaires.
En influence, élection après élection.
Ah bah dis donc,
PPE.
Ouais, je veux bien qu'on perde en élection, mais alors eux, avec 14%, vous pensez qu'ils vont peser quoi ? Nous sommes déjà structurés pour organiser les négociations sur les présences en commission. Aujourd'hui, les différents groupes ne sont pas organisés, et notamment ALDE, le groupe où doit siéger Madame Loiseau, qui arrivait pour en prendre soi-disant la présidence, qui a critiqué tout le monde et qui au final se retrouve à mettre en difficulté son propre parti.
Justement, vous allez siéger au PPE. Qui allez-vous soutenir pour la présidence de la Commission européenne ? Est-ce que vous allez soutenir le candidat d'Angela Merkel, Manfred Weber, que Nathalie Loiseau aurait qualifié d'ectoplasme ? Est-ce que vous allez soutenir quelqu'un d'autre, par exemple Michel Barnier, qui est fidèle à votre
famille politique ?
Nathalie Loiseau,
on l'avait reçue quand elle était en charge des affaires européennes devant notre délégation. Et lorsque j'ai évoqué cette question des sanctions contre la Russie et les difficultés de nos agriculteurs et nos producteurs, elle nous a répondu que les agriculteurs s'étaient adaptés à cet embargo russe et que ceux qui ne s'étaient pas adaptés étaient des archaïques. Voilà ce qu'est Madame Loiseau, c'est-à-dire qu'elle est dans l'invective permanente, et ça a choqué tellement de parlementaires que Renaud Muselier, comme Alain Cadec, président de la commission pêche, sont levés et ont quitté la salle. Et là, qu'elle se permette de traiter d'ectoplasme un parlementaire allemand qui est président de notre groupe politique, je trouve ça fâcheux et regrettable, et ça l'a fait perdre déjà en crédibilité dans une institution où on a besoin justement de trouver sur des textes, parce que ce Parlement, il n'y a aucune majorité.
Est-ce que vous allez soutenir ce candidat allemand qui est le candidat d'Angela Merkel pour la présidence de la Commission, ou est-ce que vous allez soutenir quelqu'un d'autre comme Michel Barnier ?
Mais vous savez très bien que depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen vote pour la présidence de la commission en fonction de celui qui aura été désigné par le Conseil. Et le Conseil doit respecter les résultats du suffrage exprimé dans l'Union européenne. Quel est le groupe majoritaire qui est arrivé en tête ?
C'est le PPE. Non, le groupe en tête, c'est le PPE.
Le groupe en tête, c'est pas majoritaire.
Le groupe, oui, vous avez raison. Le groupe en tête qui est arrivé au cours de ces élections. Donc celui qui a gagné les élections, puisqu'il est arrivé en tête, on est d'accord.
Mais tout seul, non, mais il n'a pas la majorité.
Il faut trouver dans le traité de Lisbonne, le Conseil doit valider à la majorité qualifiée, doit choisir le candidat à la présidence de la Commission. Nous, on validera le président de la Commission. Mais il doit le choisir en respectant les élections démocratiques qui se sont déroulées dans l'Union européenne. Donc, et je suis désolée, pour l'instant, Manfred Weber est le président du groupe PPE. Il a été le Spitzenkandidat pour le PPE. Il est arrivé en tête, donc c'est lui qui devrait être désigné. Et puis, j'entends parler de Michel Barnier. Mais je n'entends pas parler de la candidature officielle de Michel Barnier. Enfin,
François-Xavier Bellamy, il a soutenu sa famille politique.
Mais il a soutenu notre famille politique. Mais quand j'entends certains nous dire « Ah, mais il faudrait Michel Barnier », mais Michel Barnier n'a pas fait acte de candidature, tout simplement parce qu'il doit terminer le Brexit pour lequel il est le négociateur. Donc, moi, j'en reste à respecter le traité de Lisbonne.
Ouais. Le dirigeant hongrois Viktor Orban avait été suspendu du PPE quelques mois avant les élections européennes lors d'une procédure précédente, puisque ça c'était en octobre. Votre famille politique s'était divisée sur le sort de Viktor Orban. Vous aviez voté, vous, contre toute sanction à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui vous espérez...
J'en ferai pareil.
Oui. Donc vous espérez qu'il rejoigne le PPE.
Mais le Fidesz est dans le PPE. Voilà. Et nous étions en réunion de notre groupe PPE où nous avons voté pour notre président au Parlement européen cette semaine, puisque la semaine commencera lundi. Et les députés hongrois étaient là, ils ont participé au vote. Et les Hongrois sont arrivés avec 13 élus au groupe PPE. Je vous rappelle que nous sommes arrivés à 8 alors que nous étions 20. Alors tous ceux qui veulent donner des leçons à Viktor Orban aujourd'hui sont mal placés.
Il respecte toutes les valeurs que vous défendez au niveau européen.
Regarde les résultats, c'est un pays démocratique, c'est un État membre. Et puis moi, ce qui m'intéresse chez Viktor Orban, pour en avoir parlé avec lui, c'est la défense de la frontière extérieure de l'espace Schengen et sa politique de maîtrise de l'immigration. Après, je ne partage pas toutes les valeurs de Viktor Orban.
Cet agissement, par exemple, contre la presse, contre la justice, ne vous dérange pas ?
Ce n'est pas une question que ça me dérange. C'est une question qu'il y a un peuple hongrois que je respecte et que je préfère discuter, dialoguer avec Viktor Orban. D'ailleurs, je constate qu'il a amélioré ses dispositifs, qu'il a accepté sur la base d'un texte commun sa suspension temporaire et que moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous maîtrisions ensemble l'immigration illégale. Et moi, je ne veux pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous différencie aussi avec Emmanuel Macron. Je veux, par exemple, moi, conditionner les aides à l'Afrique, les aides au développement à l'Afrique, en fonction de leur maîtrise de leur immigration et à ce qu'ils reprennent leurs ressortissants arrivés en situation illégale sur notre territoire. Regardez ce qu'a fait M. Trump avec le Mexique. Il a mis clairement
des murs.
Je suis pas dans une volonté de construire des murs. Je suis dans une vraie volonté d'un développement de l'Afrique réel, parce que chaque année, nous donnons 17 milliards d'euros d'aide au développement à l'Afrique. Et au final, le citoyen européen paye deux fois. Il paye pour le développement de l'Afrique et il paye pour ceux qui sont en situation illégale chez nous. Et le citoyen européen n'a pas à payer deux fois. Donc, je veux mettre face à leurs responsabilités l'Union africaine pour vraiment conditionner nos aides, comme a fait d'ailleurs M. Trump avec le Mexique, où il a mis en place des dispositifs de conditionnement. Il a conditionné aussi, il a dit attention, sinon...
Vous évoquiez le Brexit il y a un instant, Nadine Morano, une question de Damien Fleurot.
Oui, Theresa May va donc passer la main en Grande-Bretagne. Elle a échoué à mener à bien le Brexit et son successeur devrait être Boris Johnson. Il a déclaré, Boris Johnson, que s'il devenait Premier ministre, il refuserait que le Royaume-Uni paie la facture du Brexit jusqu'à ce que l'Union européenne accepte de meilleures conditions de retrait. Quelle attitude doit-on avoir vis-à-vis du Royaume-Uni ? Est-ce qu'on renégocie ? Vous disiez, vous, il y a quelques mois, vouloir un nouveau vote
Ben, moi, j'ai pas à vouloir. Je fais juste le constat de ce qui se passe. La situation du Royaume-Uni est dans une impasse totale.
Donc,
vous avez une instabilité politique, un non-choix politique. L'accord qui avait été trouvé de sortie a été validé par les 28 pays de l'Union. Et c'est tout le travail très difficile qu'a fait Michel Barnier. Après, moi, je pense que, et comme beaucoup, que le Brexit est une erreur, que ça nous amène dans une impasse, même nous, au sein de l'Union. Mais après, on ne peut pas rester dans un non-choix. À un moment, il faudra qu'ils partent. Mais le dire qu'ils ne payeront pas la facture, il ne faut quand même pas exagérer. À un moment, le Royaume-Uni ne peut pas décider de se mettre assis sur les traités, des engagements qu'on a en commun, des accords commerciaux qu'on a. On ne peut pas faire partir du marché unique et puis ne pas vouloir que les avantages et pas les inconvénients. Je veux dire, à un moment, c'est leur responsabilité. Et toute cette campagne... Moi, j'étais allée au moment de cette campagne du Brexit au Royaume-Uni. J'étais atterrée de voir les mensonges qui étaient véhiculés autour de cette campagne. D'ailleurs, on voit aussi comment ont voté les Anglais au cours de les Britanniques au cours de ce vote sur le Brexit. Les villes ont plutôt choisi de rester dans l'Union européenne. Les campagnes ont plutôt choisi de sortir de l'Union européenne. Et quand Marine Le Pen disait que c'était la victoire de la liberté, ben franchement, moi, ça démontre ce qu'est une sortie de l'Union européenne. C'est une impasse, c'est un danger aussi pour ce qui est en train de se passer en Irlande. Ils auront près de 400 accords commerciaux à renégocier. Enfin, moi, je trouve ça pathétique, franchement.
Merci Nadine Morano de votre participation au Grand Rendez-vous. Le Mondial féminin de foot s'est ouvert vendredi soir par une large victoire des Bleus. Vous êtes accro ?
Accro, non. Moi, je préfère la natation en sport, mais j'aime le foot.
Vous connaissez les grandes vedettes féminines ?
Non, je les connais pas. Je les ai regardées pour la première fois au dernier match. J'étais très émue de voir à quel point elles étaient, pendant le chant de la Marseillaise, elles aussi, sans doute, à la fois émues et conscientes de l'enjeu qu'elles avaient pour la France. Moi, je leur dis bravo. Et quand je vois le match qu'elles ont fait, pour l'instant, on n'est pas encore dans le dur, ça va venir. Mais c'est déjà pas mal. Je dis bravo.
4-0.
Bravo aux Bleus. ES à la fin. Bravo, continuez, on compte sur vous.
Merci Nadine Morano pour votre participation au Grand Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure évidemment, même équipe. Très bonne semaine à vous tous.
Merci à vous.
Merci Hélène Jouan. À samedi prochain, en effet, 10h pour un nouveau Grand Rendez-vous Europe 1 CNews et Echo, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur europe1.fr. Dans un instant, il sera temps de faire un tour dans la capitale avec Frédéric Taddeï qui est accompagné comme chaque dimanche. Bonjour Frédéric, vous partez en balade.
Bonjour.
Avec qui cette fois?
Bonjour Justine, aujourd'hui c'est avec la comédienne Sylvie Testu que nous partons en balade. Accrochez-vous bien, elle déborde d'énergie.
Alors à tout de suite.